Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous pour poursuivre notre cycle d'émissions dédié aux communes de la métropole toulousaine. Je rappelle qu'il s'agit de mieux faire connaître les 37 communes métropolitaines, leur histoire, leur patrimoine, leur territoire, leurs activités économiques, associatives et culturelles. Vous constaterez tout au long de ces émissions que la métropole toulousaine compte des richesses souvent méconnues ou mal connues dans tous ces domaines. Blagnac est la première commune à laquelle nous nous intéressons pour inaugurer cette série. Sa renommée s'est faite autour de son aéroport et de ses nombreuses entreprises travaillant pour le secteur de l'aéronautique, mais nous avons vu la semaine dernière que Blagnac est aussi le lieu d'une histoire très ancienne dont on découvre encore de nos jours des épisodes remontant aux premières communautés humaines. Cette semaine, c'est à la découverte de son patrimoine que nous vous convions, et là aussi, vous allez pouvoir constater qu'il est remarquable et qu'il présente des intérêts très divers. Blagnac et son patrimoine, suivez le guide. Et notre guide à la découverte du patrimoine de la ville de Blagnac, c'est de nouveau Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire. Bonjour et bienvenue à vous aussi, madame. Alors, le patrimoine à Blagnac est-il lui aussi ancien et quels en sont les éléments les plus remarquables, ceux qui méritent vraiment d'être connus des citoyens de la métropole?
Oui, nous avons un patrimoine qui n'est pas au niveau de celui de Toulouse, je le dis immédiatement, mais c'est un patrimoine très intéressant. Le plus ancien que je voudrais noter, c'est l'église Saint-Pierre, qui date du XIe siècle. Mais aussi, nous avons des bâtiments intéressants, en particulier la maison des consuls et la première mairie que nous avons réussi à conserver, le château de Maniban. Est un château typique de l'époque moderne, qui est aujourd'hui un monastère, ce qui lui donne aussi une aura particulière. En lien toujours avec l'histoire de Blagnac très ancienne, la chapelle Saint-Exupère, où est reposé, semble-t-il, le corps du saint protecteur de notre ville. Mais vous trouverez aussi une école art déco, en briques, très rare, style méridional. Et puis je vous amènerai dans le ramier de Blagnac, qui a toujours eu une importance historique pour la ville, puisque c'était le lieu où les consuls plantaient des peupliers et vendaient ces peupliers pour avoir de l'argent. Je le situe aussi en termes de patrimoine environnemental, c'est-à-dire le patrimoine historique est extrêmement important, on va le voir tout au long de cette émission, mais le patrimoine environnemental nous vient aussi du passé et nous avons besoin de le protéger.
Oui, parce que quand on parle de patrimoine, on pense souvent au patrimoine bâti, à des constructions, à des édifices, mais le patrimoine naturel, environnemental, ça existe aussi. Et on va voir qu'à Blagnac, il est aussi très riche, bien voilà qui nous met l'eau à la bouche pour en savoir plus sur le patrimoine de la commune de Blagnac. Nous allons y regarder de plus près avec vous, Annie Thomas. Il va falloir attendre un peu pour ça tout de même, puisqu'il est l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous ouvrons ce flash avec une nouvelle qui était attendue, voire espérée, le projet de troisième ligne du métro toulousain déclaré d'utilité publique.
Oui, le projet a été validé par la préfecture de Haute-Garonne. Le projet dénommé Toulouse Aérospace Express Connexion Ligne B comporte donc deux opérations. D'abord, la création de la troisième ligne de métro d'une longueur de 27 km prévue pour relier la gare de chemin de fer de Colomiers à la commune de La Bège. Elle comportera 21 stations et traversera les communes de Colomiers, Blagnac, Toulouse et La Bège avec une connexion à la ligne de tramway pour desservir l'aéroport de Blagnac. Puis vient la connexion à la ligne B. La ligne du métro sera prolongée sur 2,7 km à partir de la station de Ramonville-Saint-Agne avec la création de deux nouvelles stations.
Ce sont les vacances scolaires et il faut en profiter pour proposer aux enfants des expériences insolites. Par exemple, la Cité de l'Espace met les petits de 4 à 8 ans sur orbite.
Oui, la Cité de l'Espace a ouvert un nouvel espace de 350 m² dédié aux enfants. Le très jeune public peut désormais s'immerger en présence d'un animateur scientifique dans le monde des fusées et des astronautes. Alors au rez-de-chaussée, le monde des fusées et au premier étage, celui des astronautes. Avec de grandes pièces en 3D, ils vont pouvoir construire une fusée dont ils pourront remplir les réservoirs. Ils pourront aussi l'escalader escalader et même la piloter, revêtue de leur tenue d'astronaute. De quoi cultiver leur imaginaire tout en se familiarisant avec les objets du ciel, la distance, la vitesse ou encore la pesanteur, une activité qui va encore booster la fréquentation de la Cité de l'Espace. En 2019, 408 000 visiteurs sont venus la découvrir. C'est le site payant le plus visité de l'agglomération toulousaine.
Et puis, pour les petits et les grands d'ailleurs, on peut aussi en profiter pour faire un tour dans un autre établissement culturel toulousain, le Muséum d'Histoire Naturelle, dont l'exposition Extinction alarme sur la disparition des espèces vivantes.
Oui, l'exposition est ouverte jusqu'au 28 juin, vous avez encore le temps de la visiter. Le Muséum de Toulouse accueille donc l'exposition Extinction, la fin d'un monde conçu par le Natural History Museum de Londres. À l'heure où les inquiétudes face au changement climatique s'amplifient, elle tire la sonnette d'alarme pour la sauvegarde de la biodiversité. La liste des espèces disparues ou en voie de disparition ne cesse de s'agrandir. En cause, l'activité humaine et son impact direct sur la nature ou indirect via les conséquences du changement climatique. Les scientifiques estiment que 800 espèces ont disparu sur la surface de la Terre en 5 siècles. La déambulation à travers les allées d'animaux définitivement disparus ou en sursis interroge. Une exposition alarmiste mais aussi pleine d'espoir. Parallèlement, les scientifiques découvrent encore aujourd'hui de nouvelles espèces.
C'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Annie Thomas, je pense que parmi celles-ci, il y en a au moins une qui doit vous intéresser tout particulièrement. Vous qui êtes férue d'histoire, que vous inspire l'exposition présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, celle consacrée aux espèces disparues ou en voie de disparition ?
D'abord, je crois qu'il est utile que nous ayons tous une idée des changements climatiques tels qu'ils ont existé dans l'histoire. On a évoqué déjà par rapport à l'histoire de Blagnac l'importance des changements climatiques puisque à Blagnac, il y a 200 000 ans, régnait une ère glaciaire, des vents terribles, de la neige partout. Les changements climatiques peuvent avoir plusieurs causes et là, on parle véritablement du changement climatique dû à l'activité humaine. Donc, je crois que c'est important de se mettre au clair sur cette question-là. Je sais que c'est un problème de conflit entre parfois des scientifiques, même des autorités politiques à travers le monde, mais les scientifiques doivent éclairer les citoyens. Nous avons le devoir de nous intéresser à cette question. C'est fait à travers l'extinction des espèces, ça pourrait être fait d'une autre manière, mais l'important, c'est le but, l'objet. Je pense que c'est très intéressant.
Merci pour ce commentaire éclairé. Nous allons revenir maintenant au thème de cette émission, le patrimoine de la commune de Blagnac.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Suite de Métropole et vous avec notre invitée Annie Thomas, présidente de l'association Blagnac Histoire et Mémoire. Premier élément remarquable du patrimoine blagnacais que vous souhaitiez nous présenter, l'église Saint-Pierre, donc située au centre du village ancien. Sa construction date du XIe siècle, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on a une date plus précise? Et puis, quelles sont ses particularités et les évolutions notables de cet édifice à travers les siècles?
Alors, sa date de construction, oui, nous la connaissons, 1071, dans le XIe siècle. Mais peut-être avant cela, vous dire que lorsqu'on se trouve devant l'église Saint-Pierre, en fait, nous sommes dans un lacis de vieilles ruelles qui sont contenues par les boulevards actuels. Nous sommes là dans ce qu'on appelle le cœur ancien de Blagnac. Au Moyen-Âge, on appelait le fort de Blagnac, puisqu'il était plus élevé que la petite plaine à côté de la Garonne. Ce fort de Blagnac était bordé en fait de fossés qui prenaient leur eau directement dans la Garonne et de murailles. Ça avait comme objectif bien sûr de protéger. Deux portes donnaient accès à la ville ou permettaient de ne pas pénétrer dans la ville, bien sûr, lorsqu'on le protégeait. Donc voilà, cette promenade que je vous propose part de ce cœur original qui vous donne vraiment l'impression d'être dans un village. L'intérêt de cet endroit, c'est que vous êtes dans un village, en fait, alors que nous savons très bien que nous sommes dans une commune ultra moderne, ultra connectée au reste du monde. Mais là, la sensation, c'est celle d'un village. Donc l'église Saint-Pierre, elle est magnifique de l'extérieur, tout en briques rouges, magnifique à l'intérieur aussi. Elle est remaniée du XIVe au XVIe siècle. Le clocher-porche que nous avons devant nous a été installé là au XVIe siècle. Il y avait précédemment un clocher-mur qui était de l'autre côté, côté Garonne. Mais on a voulu, les barons de l'époque ont voulu donner plus de lustre à Blagnac. Et faire aussi un clocher qui rappelle Saint-Cernin, si vous le regardez bien,
oui.
C'est un petit Saint-Cernin. Quand on rentre à l'intérieur de l'église, on rentre, on se trouve dans le narthex, il y a une œuvre très très belle qui est un Christ en bois du XVIe siècle. Et ensuite, lorsqu'on pénètre dans la nef et le chœur, c'est un très vaste espace qu'on a devant nous, qui est vraiment très ouvert, avec des voûtes gothiques qui ont été peintes, repeintes, on pourrait dire, au XIXe siècle, avec un fond bleu, des peintures de grisaille. C'est un homme intéressant qui a fait ces peintures, 1840 à peu près. C'était le décorateur du théâtre du Capitole, Van der Mesch. Donc, il est passé à la fois de l'œuvre profane à l'œuvre religieuse. Les peintures représentent Dieu et le Christ à travers le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et aussi les sacrements de l'Église. Il y a des vitraux, on a réussi à les conserver malgré la Deuxième Guerre mondiale, malgré la chute de ce fameux avion allemand en 1944. Ouais. Donc, c'est des vitraux qui représentent les saints importants, hein, mais aussi Saint-Pierre, qui est le patron du village, mais aussi Sainte-Germaine de Pibrac.
Sainte-Germaine de Pibrac,
qui est plutôt la sainte locale. Je voulais vous signaler dans l'église une chapelle qui est particulièrement riche, chapelle Saint-Jacques. Elle a été construite au XIVe siècle par les barons de Blagnac, qui étaient à cette époque-là la famille de Voisin. Et elle servait de sépulture pour la famille. Lorsqu'on a fait des fouilles, on a retrouvé de nombreux corps dans la chapelle. Elle porte sur ses murs deux des tableaux les plus importants de l'église. Ce fameux portrait en pied de cette bienfaitrice, Jeanne Lucent. Mais il y a aussi un tableau qui est une messe des défunts de 1720, qui représente quelqu'un qui fait une offrande pour les âmes des défunts de sa famille. Et devant lui se trouve un prêtre et deux diacres. Et juste à côté, il y a les âmes de sa famille entourées de flammes au purgatoire. Il y a d'autres tableaux extrêmement intéressants dans l'église. Et en fait, au-delà de l'aspect artistique, il nous éclaire sur le fonctionnement de cette communauté villageoise, sur la place de la foi populaire, sur la place des confréries. Pourquoi ? Parce que ces deux tableaux, comme le tableau fameux de Saint-Exupère qui chasse l'ego, hein, c'est Saint-Exupère chassant l'ego sur les remparts de Toulouse, le portrait de Saint-Pierre aussi, que nous avons dans l'église, porte tous les dates, les noms des bailes de la confrérie qui ont fait faire ces portraits ou ces tableaux, qui éclairent en fait sur la période. Par exemple, le tableau qui représente Saint-Exupère a été peint et offert en 1793. Nous sommes en pleine terreur. Et la communauté villageoise, sans crainte, fait faire un tableau sur le saint local. Le tableau de Saint-Pierre a été fait en l'an 9 de la République française. Donc vous avez en 9 de la République française et en bail le nom des personnes. Ça, c'est une époque aussi un peu troublée, 1800-1801. Donc on voit très bien qu'il y a une permanence du rapprochement et du travail commun autour des confréries entre le 18e et le 19e, sans véritablement qu'il y ait de rupture. Donc ça nous intéresse, ça nous éclaire un petit peu sur le temps historique national, le temps historique local. Et comment fonctionne une communauté, qu'est-ce qui est important pour elle à ce moment-là.
On continue cette visite guidée, cette promenade, comme vous l'avez dit, dans le patrimoine de Blagnac avec ce que vous appelez les vieilles mairies. Mais qu'est-ce que vous appelez les vieilles mairies?
Ah voilà, mais on a beaucoup de chance parce que ce sont des... Si vous allez les voir, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on le considère comme quelque chose d'important? Parce que ce sont des endroits qui étaient importants pour l'histoire de la communauté et que nous n'avons pas toujours conservé. Donc d'abord, quand on sort de l'église, on passe à droite et sur cette place intérieure, on trouve ce qu'on appelle la maison commune, qui était l'endroit où les consuls, sous l'Ancien Régime, dirigeaient, administraient la communauté. Ils étaient au nombre de 4 depuis le XIVe siècle. Ils représentaient tous les ordres, les notables, les bourgeois, les artisans et les pauvres, qui étaient souvent des ouvriers agricoles. Donc obligatoirement, on devait les choisir chacun dans cette catégorie. Ils administraient la commune. Et lorsqu'il y avait une décision importante à prendre, ils convoquaient toute la communauté qui se rassemblait dans le cimetière. Parce que la place intérieure, en fait, c'était le cimetière. Les consuls se mettaient au premier étage et on faisait la réunion comme cela et on décidait, eux en bas, les autres en haut, de manière harmonieuse. Si on continue, qu'on contourne le cœur, on arrive dans la rue du Vieux-Blagnac, la plus vieille rue de notre village, à cette époque-là, de notre ville, où vous trouvez là la première mairie, la mairie qui a été construite juste après la Révolution française. Pour le premier maire, en fait, il a été élu en 1790, il y avait à peu près 1200 habitants et 180 habitants ont voté. Et le nom du premier maire, c'est François Cantaire, dont une rue de notre village porte son nom. Donc, au premier étage, le conseil municipal siégeait et au rez-de-chaussée, nous avions à la fois une petite prison, parce qu'il faut toujours avoir une prison, et en fait, un abattoir boucherie. Donc ça faisait quelque chose de très, très particulier, mais c'était aussi comme cela que fonctionnait la communauté.
Autres éléments tout à fait remarquables du patrimoine blagnacais, le château et le monastère en bordure de Garonne, qui dominent donc le parc des Ramiers. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est dans Blagnac, mais qu'on voit très bien lorsqu'on se promène au parc des Ramiers.
Tout à fait, vous avez raison. C'est un endroit historiquement très intéressant et puis merveilleux, parce que le château a une silhouette très belle et c'est vraiment un bâtiment exceptionnel. Mais avant cela, on est sur le chemin, donc on quitte cette partie du vieux Blagnac.
Il y a une station intermédiaire. Hein.
Voilà. Regardez bien le nom de toutes les rues que vous croisez, parce qu'il y a la rue des Pêcheurs, la rue des Blanchisseuses, la rue du vieux château, parce qu'il y avait là, jusqu'à aux guerres de religion, il y avait un château féodal qui a été brûlé pendant ces guerres-là. On passe devant un bâtiment très beau, Troisième République, qui était en fait l'école des filles. La première école des filles, grâce à une bienfaitrice qui s'appelle Jeanne Hérisson, les femmes sont de grandes bienfaitrices à Blagnac.
Oui, j'ai remarqué, oui.
Absolument, et je suis ravie de le faire remarquer, moi aussi. Elle a donné sa maison pour qu'enfin la commune ouvre une école publique pour les filles. Les garçons avaient une école depuis 25 ans. Voilà, je lui rends hommage en passant. Nous partons vers le château et là, nous avons un nouvel aménagement qui permet de voir justement le parc et le château avec son toit de tuiles vernissées, très rare dans la région. Ce château a été construit vers 1770 par Jean d'Aldéguier, qui était le trésorier général des finances de la Sénéchaussée de Toulouse, dont une personne extrêmement importante. Il avait choisi cet emplacement parce qu'il voulait y faire une vraie résidence de repos, avec un parc, un jardin à la française devant et un parc derrière. Il a embelli notre patrimoine, soyons clairs. Il n'est pas le seul. Il faut le dire que Toulouse nous envoyait souvent ses capitouls ou ses riches propriétaires aristocratiques, nobles, pour acheter nos terres et construire de belles demeures à Blagnac. Ce château, en fait, connaît un destin un peu compliqué parce que depuis le moment où il a été construit, en fait, c'est fin du XVIIe. Donc, ce n'est pas 1770, c'est 1670. Pardonnez-moi, je rectifie. Depuis la fin du XVIIe, jusqu'à ce que les Trappistines s'y installent en 1852, il y a eu 12 propriétaires. Avec des heures et des malheurs, parfois on s'est occupé du château, parfois on s'en est pas occupé. Mais je voudrais signaler malgré tout deux personnes importantes qui ont été propriétaires du château. Le premier, c'est au XVIIIe siècle, c'est Joseph Gaspard de Maniban, marquis de Maniban. C'est lui qui a donné son nom au château. Monsieur de Maniban était le premier président du Parlement de Toulouse, hein, une institution extrêmement importante. Il a lui aussi embelli le château. Et la deuxième personne, c'est le général Compense, qu'on connaît bien aussi dans notre métropole. Dominique Compense, qui était un héros des guerres révolutionnaires et empires.
Donc en rapport, bien sûr, avec Compense Caffarelli.
Absolument, voilà, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Et il a vécu à Blagnac de 1815 à 1845, dans le château. Il y est mort. Ses obsèques ont lieu à l'église et on ramène son corps dans le parc. Et là, on tire une salve d'honneur en présence de nombreux militaires et de personnalités. Et l'histoire retient aussi que M. Compense, le général Compense, avait donné à son fils comme précepteur un jeune homme de 19 ans, un étudiant de 19 ans, qui a eu ensuite un destin national. C'était Auguste Blanqui.
Ah oui, en effet. Oui.
Un vrai révolutionnaire qui apprenait ensuite l'insurrection et la lutte des classes. Donc, ce jeune homme est venu à Blagnac, demeurer là, et nul doute qu'il avait certainement des contacts avec tous les républicains de Toulouse et de Blagnac. Alors, le château, 1852, les Trappistines l'achètent, on change d'air. On passe, en fait, d'un château qui était une résidence aristocratique à un monastère avec les Trappistines qui venaient de Maubec dans la Drôme, qui ont dû adapter en fait cet horizon aristocratique à leur spiritualité cistercienne, faite de pauvreté, faite aussi de travail, dont plus de parcs, des champs, des jardins, bien évidemment, des ateliers de production. Elles ont été très importantes pendant les guerres de 70, la guerre de 70 à la guerre de 14, parce qu'elles avaient ouvert un hôpital, et en 14 en particulier, elles accueillaient les ouvriers asiatiques qui étaient réquisitionnés dans les usines d'armement de Toulouse et qui souvent souffraient de tuberculose. Au cimetière de Blagnac, il y a un carré très soigneusement entretenu par le Souvenir français qui rassemble les tombes de ces personnes venant d'Asie qui avaient été réquisitionnées. On change, puisque en 1939, les Trappistines estiment que l'urbanisation est trop forte. Connaissait oui. La vocation des cisterciens, oui, oui. Et elles vendent le château. Elles le vendent aux dominicaines, qui l'occupent jusque quasiment il y a une dizaine d'années. Depuis, c'est une communauté des Béatitudes qui est là, dont la vocation est toujours ici. En fait, les dominicaines, elles ont eu à affronter la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été très, très dur, pour Blagnac en général, pour elles en particulier. Elles ont accueilli les réfugiés, en particulier belges. Tous les bâtiments ont été occupés par l'armée allemande. Elles ont dû se battre pour protéger en fait leur clôture, soyons clairs. Elles ont caché des gens qui étaient recherchés. Elles ont eu un rôle formidable. Et on a évité le pire là aussi, comme à l'aéroport, c'est-à-dire qu'en partant, les Allemands ne font pas sauter le dépôt de munitions qui est dans le monastère. Les FFI s'en emparent immédiatement, soyons clairs. Et on a là aussi, peut-être aujourd'hui, nous ne serions pas là en train de parler de ce patrimoine.
C'est bien possible.
Qui est extrêmement important.
Ouais, qui a été préservé, donc. En contrebas, il y a le parc des Ramiers et toute cette bordure de la Garonne magnifique, encore très sauvage. Alors, je crois que vous vouliez nous en parler parce que
on parlait
de patrimoine environnemental. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Tout à fait.
Et à voir.
À voir. C'est un endroit qui a toujours eu un rôle important. Les ramiers dans notre région, ou le ramier, ça dépend des endroits et ça dépend des moments. En fonction des moments, on dit le ou les ramiers.
À Toulouse, c'est l'île du ramier.
Bon, voilà, on dit l'île des ramiers, mais parfois on dit les ramiers.
Les ramiers,
voilà.
Absolument.
C'est un endroit qui borde une rivière ou un fleuve, plutôt humide. Voilà, ça, c'est important de le savoir. Très souvent planté de peupliers, de toutes sortes, de peupliers blancs, en fait. Il y a toutes sortes de peupliers, parfois aussi de certaines chênes, des ormes, voilà, mais qui sont capables de résister à une humidité importante. Sur le sol, souvent de l'herbe, où on faisait paître les troupeaux. Et ces endroits, très généralement, appartiennent aux communautés villageoises, c'est-à-dire enfin, au consulat, au baron, mais plutôt à la mairie, parce que ça leur fournissait des revenus pour leur budget. Et c'était rarement des terres que l'on pouvait vendre parce qu'elles étaient sujettes à crues. On parlera peut-être de la crue de 1875 à un moment ou à un autre. Ces ramiers-là étaient extrêmement importants pour la communauté. Aujourd'hui, c'est un parc magnifique avec des jeux pour les enfants, des sculptures, hein, des bassins, le terrain de football, le terrain de rugby.
Oui, tout le parc des sports de Blagnac est là.
Le parc des sports, la piscine qui est merveilleuse. Vous pouvez là vous baigner et être ensuite sous les peupliers à l'ombre. Formidable. Et vous pouvez arriver directement au ramier de Blagnac depuis la digue, depuis Toulouse, Sept-Deniers, enfin le pont des Catalans, Sept-Deniers, vous passez sur le pont de Blagnac et vous y arrivez.
Une promenade que je connais bien.
J'encourage tout le monde à y aller parce que vous avez une perspective lorsque vous arrivez. Vous voyez très bien la silhouette, bien sûr, du monastère, les deux églises, enfin l'église du monastère, l'église Saint-Pierre, et tous les murs qui protégeaient Blagnac, ces murs en briques. Et vous pouvez poursuivre cette promenade sur plusieurs kilomètres jusqu'à Beauzelle et au chemin de Naudin, au parc des 15 Saules. Et en passant, arrêtez-vous à l'île P7. Qui est un endroit protégé, qui n'est accessible d'ailleurs que quand la Garonne n'est pas haute. Hein. Il y a une petite chaussée.
Il y a un bras en fait qui sépare l'île du lit principal de la Garonne.
Hein. Tout à fait.
Elle est enserrée.
Donc quand la chaussée est submergée par l'eau, c'est difficile. Enfin, il faut avoir des bottes. Et là, vous êtes vraiment dans une nature très protégée. C'est un endroit protégé.
Et très sauvage.
Très sauvage. Vous y trouvez à deux pas du centre-ville des hérons, des aigrettes. Vous pouvez trouver aussi des écureuils, des rapaces.
Le milan noir.
Vous pouvez trouver aussi dans la Garonne, mais aussi dans les lacs des 15 sols, des cendres, des silures, des brochets. En fait, toute une faune extrêmement intéressante.
Et quelques saumons qui remontent au moment de la remontée des poissons migrateurs. Donc en juin notamment, je dis bien quelques saumons. Il y en a quelques-uns qui sont comptabilisés tous les ans à la passe à poissons du Bazac. Donc ils passent par là.
Ils passent par là, obligatoirement. Ils viennent par là, tout à fait.
Voilà. Alors il y a une particularité, je signale au passage, c'est que depuis quelques années, il y a des perruches à collier qui se sont échappées de volières, qui se sont reproduites. Et maintenant, il y en a beaucoup, on les entend, elles ont un cri. Et un vol aussi très caractéristique. Bon, il y a ces arbres magnifiques, ces grands peupliers blancs et noirs, parce qu'il y a les deux. Et puis, on y voit des écureuils, on y voit des perruches, et on y voit des rapaces et des pigeons ramiers au parc des ramiers. Mais apparemment, ça n'a rien à voir. On va rester dans le patrimoine religieux Blagnac pour terminer avec la chapelle Saint-Exupère. Alors, chapelle ou oratoire, ou les deux j'ai lu ça.
Les deux. Voilà, les deux, mon général. On remonte des ramiers. On passe devant la mairie, derrière la mairie, avant d'aller vers la chapelle, c'est juste à côté. On passe devant l'école Jean Moulin, qui était une école jusqu'il y a peu de temps, c'est désormais un bâtiment municipal. Mais la particularité de l'école Jean Moulin, elle était construite dans les années 30, dans le style art déco.
Oui, en plein style art déco.
Donc, il y en a peu. Et en plus, art déco en briques. Donc,
oui,
ça, c'est vraiment absolument
extraordinaire,
particulier, avec ses courbes. Ça a été rénové récemment, donc c'est un endroit merveilleux. Donc, on prend la rue François Cantaire, qui nous amène à la chapelle. Cette chapelle, elle a été construite au XIVe siècle. C'est aujourd'hui une annexe d'Audi Sud. C'est un petit théâtre.
C'est un lieu de spectacle.
C'est un lieu de spectacle, absolument, de conférences aussi. Nous y faisons parfois nos conférences. Et dans la chapelle, il y a un oratoire. Et la particularité de cet oratoire, nous avons des peintures murales sur plusieurs panneaux qui racontent, comme une bande dessinée, la vie du saint. Sa naissance, quand il a été élu, le jour où la délégation des Toulousains est allée à Arreau pour lui demander de devenir l'évêque de Toulouse, alors qu'il était en train de labourer, Il y a toute une image là absolument merveilleuse. Bien sûr, le fameux combat contre l'ego et puis d'autres épisodes aussi. Dans ces peintures, elles sont assez naïves, mais elles sont remarquables parce que les détails des vêtements sont très, très, très bien mis en valeur. La restauratrice nous a dit que, en fait, elle avait retrouvé des traces d'or, de peinture d'or sur les brocarts, les ecclésiastiques avec leurs brocarts, tout ça qui sont vraiment illuminés, en fait. Donc, il y a aussi une petite sculpture du 15e siècle de Saint-Exupéry qui est classée. Et un épisode peut-être intéressant à savoir, c'est que pendant les deux guerres, en particulier la Première Guerre mondiale, les Blagnacais qui partaient combattre venaient dans la chapelle, prenaient de la terre de la chapelle, de l'oratoire, la mettaient dans une poche, c'est souvent les mamans qui faisaient ça, cousues, et gardaient avec eux la terre de Blagnac. Ensuite, après la guerre, les guerres, il y a eu un certain nombre d'ex-voto qui ont été faits par les familles pour remercier ou pour rendre compte un petit peu de ce qui s'était passé, dont plusieurs étaient souvent étaient dans la chapelle pendant très longtemps. Voilà, la promenade est terminée, mais entre-temps, je voudrais vous dire que ne vous arrêtez pas au patrimoine exceptionnel, classé. Le patrimoine, c'est aussi la vie quotidienne, dont ce sont les lavoirs, ce sont les norias, ce sont les pigeonniers. Il y en a de nombreux pigeonniers. Ce sont ces maisons, ces beaux domaines, mais aussi des maisons ordinaires. Elles ne sont pas si ordinaires que ça, qui étaient construites en briques, souvent fabriquées à Blagnac, puisque Blagnac est aussi une ville de briquetiers, et de galets. Et sachez que plus il y a de galets dans votre maison, plus en fait vous étiez pauvre. Aujourd'hui, on trouve ça merveilleux.
Oui.
Mais en fait, si vous étiez très riche, votre maison était entièrement en briques. Et si vous étiez un peu moins riche, vous alliez chercher les galets à la Garonne.
Voilà, baladez-vous dans les rues de Blagnac, ouvrez les yeux, regardez à gauche, à droite, levez la tête et vous verrez toutes ces merveilles que vous venez de nous décrire. On va conclure ce numéro de Métropolez-vous là-dessus, passionnant encore une fois grâce à vous Annie Thomas, à toutes vos lumières, à votre grande connaissance du patrimoine de la commune de Blagnac. On se rend compte à la fin de cette émission que Toulouse n'est pas la seule commune qui peut se targuer d'avoir un patrimoine remarquable dans la métropole. Blagnac en est le parfait exemple avec tous ces lieux magnifiques que nous venons de vous présenter. Je rappelle à toutes les personnes intéressées que l'association qu'Annie Thomas préside, Blagnac Histoire et Mémoire, édite une revue semestrielle et qu'elle a un site web que l'on peut consulter en se connectant à l'adresse www.blagnachistoire.e-monsite.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.